Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur cette libre antenne, nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez continuer à appeler tout au long de l'émission. Prendre la parole pour parler de vous, de ce qui vous préoccupe ou même simplement pour réagir à un témoignage que vous avez entendu. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Aldric et Maxime sont là au standard, prêts à vous accueillir. Vous pouvez aussi bien sûr intervenir par SMS tout au long de l'émission. Vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Vos SMS pour poser une question à quelqu'un qui intervient, pour apporter un soutien, une idée, peut-être même une solution, si vous en avez une, pourquoi pas. Et puis c'est bien sûr aussi par SMS que vous pouvez demander à entrer en contact avec quelqu'un hors antenne. Pour ça, s'il vous plaît, laissez bien votre prénom et votre numéro de téléphone que nous puissions transmettre. Enfin, dernier moyen pour nous joindre les mails, écrivez-nous à l'adresse suivante, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
La libre antenne d'Europe 1.
Et c'est Michel que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Michel.
Bonsoir, Sabine. Merci de répondre à mon message.
Soyez la bienvenue, Michel.
Alors, je vais essayer d'être claire. Donc, moi, je vous appelais parce que j'ai quelque chose qui me travaille depuis l'âge de 16 ans.
Oui.
Donc, ça fait 54 ans que je pense à quelque chose qui me hante, à savoir que ma mère, en 1947, a eu une fille que mes grands-parents, enfin que ma grand-mère maternelle, a obligée à abandonner sous X.
Quel âge avait votre maman quand elle a eu cet enfant ?
23 ans.
Et pour quelle raison on l'a obligée à l'abandonner alors ?
Vous savez, chez les gens bien, ça se fait pas hein, d'avoir un enfant comme ça, c'est...
D'accord.
Ma grand-mère était très croyante, très. Et donc, elle a eu un acte magnifique. Elle a demandé à ma mère d'abandonner. Enfin, elle lui a imposé d'abandonner sa fille.
Ouais.
Ma mère l'a abandonnée donc à la naissance.
Ouais.
Elle lui avait donné le prénom de Véronique. C'est tout ce que je sais. Et elle a accouché dans une institution religieuse. Et cet enfant a été adopté le jour de sa naissance par des amis de mes grands-parents, donc au moins des relations, ma mère m'a dit amis, mais...
Mmh.
Et elle a été adoptée le jour même de sa naissance. Et ma mère m'a précisé, je ne l'ai pas regardée. Donc ma mère a accouché, elle n'a pas voulu la voir.
C'est probablement trop douloureux pour elle.
Ça a été un traumatisme. Je pense que... Moi, on m'a dit que ma mère était psychotique, mais je pense qu'elle est rentrée dans une forme de folie à partir de ce moment-là.
Peut-être, oui.
Et... Alors, je l'ai appris à 16 ans. Ma grand-mère et ma mère avaient des relations abominables. C'était violent, c'était vraiment de la haine.
Avant l'histoire du bébé, déjà, ou après ?
Oui, avant.
Avant.
Alors... Une précision, j'avais un arrière-grand-père très religieux qui portait le scapulaire, je sais pas, vous savez, ces petits morceaux de cuir avec ou en tissu, avec une image pieuse, et il ne le quittait pas. Il était, il allait à la, je sais pas, aux vêpres, à la messe, enfin bon, il n'oubliait rien. Il n'y a qu'une chose qu'il a faite, c'est qu'il a eu des gestes. Envers ma mère, qu'un grand-père en général n'a pas, et il a fait des choses qu'un grand-père ne fait pas. Et ma mère avait 7 ans quand elle l'a dit à ma grand-mère. Bon, faut ça, entre guillemets, mais je voulais dire une chose, c'est que ma grand-mère a voulu épouser un prêtre. Donc vous voyez la famille très très marquée. Et
oui.
Donc, oui, il y avait quelque chose de pathologique dans la famille. Et ma mère, donc, un jour a dit à sa mère, ma mère avait 7 ans à peu près, que son père, donc le grand-père, avait fait des choses. Bon, j'ai jamais eu de précision, mais je sais que voilà. Et ma grand-mère est rentrée dans une crise d'hystérie, de folie. Elle a frappé ma mère. Elle lui a. Alors mon père m'a dit, a su que ma mère serait tombée dans le coma, aurait eu une fracture du crâne. Et donc, je ne sais pas les détails. Toujours est-il qu'elle l'a fait suivre par un psychiatre et qu'elle l'a mise dans un internat, dans une espèce de couvent. Parce que je pense qu'elle voulait que sa fille devienne religieuse. Hein,
elle voulait surtout protéger son père, j'ai l'impression.
Et elle voulait protéger son père, dont elle disait que c'était un saint homme.
Oui, bien sûr, oui.
C'est un évêque qui a dit sa messe d'enterrement, donc c'était quelqu'un de bien.
Oui, bien sûr.
Et
en vitrine.
Pardon ?
À l'extérieur, oui, sans doute.
Oui, c'est ça. Il a eu 9 enfants, 9 ou 10, je crois. Et donc, ça a été, à partir de ce moment-là, ça a été l'enfer entre ma mère et ma grand-mère. Elles se sont haïes, mais toute leur existence, jusqu'à sa mort. Ma mère a détesté sa mère et inversement. Et j'avais 16 ans. Alors, elles étaient encore en train de régler leur compte. Et j'ai entendu ma grand-mère dire « Tu ferais bien de dire à ta fille à parler tu ferais bien de dire à ta fille et de lui parler de l'enfant que tu as eu. »
Jusque-là, vous ne saviez pas?
Alors, je ne savais pas, mais je sentais.
Oui, comme souvent, d'ailleurs.
J'ai toujours dit à ma mère qu'il manquait quelqu'un. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un attachement très fort envers mes amis, eux. Mais c'était vraiment de l'affection. Il n'y avait rien d'autre. Mais j'avais toujours besoin d'une sœur.
Vous cherchiez une sœur, oui.
Je cherchais. J'ai eu un manque toute ma vie. Et donc là, ma mère m'a dit, oui, j'ai eu une fille, ton père le sait, je lui ai dit, etc. Et un jour, dans une colère terrible, entre ma mère et ma grand-mère toujours, ma mère m'a donné le nom des parents adoptifs. Elle m'a donné 2 fois. Elle m'a dit le nom de cette famille qui a adopté...
C'était combien de temps avant votre naissance, cette histoire-là?
3 ans.
Donc c'est une femme qui aurait 3 ans plus que vous?
Oui. Et
votre mère, dans un moment d'énervement, vous donne le nom de la famille, alors?
2 fois.
Mais dans quel but, dans quel but elle vous dit ça, en criant comme ça?
Alors justement...
Quelle est l'intention derrière? Bah oui.
Alors, je me suis demandé... J'étais quelqu'un j'étais très débrouillarde, quand il y avait des problèmes, c'était toujours à moi qu'on demandait de les régler. Et je pense, c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que ma mère ne pensait pas que je pourrais peut-être faire des recherches et la retrouver?
Personne n'avait aucun lien avec eux, ni avec elle, ni avec les parents adoptifs.
Ah non.
Terminé, ça a été coupé, d'accord.
Alors, je pense que comme c'est une famille où c'est l'omerta, hein, je suis persuadée qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de gens décédés maintenant, mais qu'il y a eu des personnes de la famille qui ont su. Mais ils ne sont plus là, hein, ils sont morts. Donc, et moi, je me demande pourquoi. Alors, je pense que c'est un refoulement, c'est très douloureux. Et je me demande pourquoi j'ai oublié ces noms, alors qu'en général, je n'oublie jamais ce genre de choses. J'ai des souvenirs qui remontent à l'âge de 2 ans et demi, quand on habitait dans le Gers. J'ai des souvenirs extrêmement précis d'endroits, de bruits, de chansons que j'ai entendues. Je pourrais redessiner des endroits où j'étais. J'avais, 2 ans et demi. Et comment se fait-il qu'à 16 ans ou 17 ans, elle a dû me le dire, hurler ça un an après, comment se fait-il que j'ai refoulé ce nom ? Mmh. Alors, c'est très, très étonnant parce que j'ai l'impression que je sais. Je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a des auteurs, il y a des écrivains qui donnent des couleurs aux mots. Je ne sais pas si c'est par un bout qui... Et moi, je sens que je sais ce nom. J'en suis absolument certaine.
Mais il est forcément quelque part, puisque vous l'avez entendu deux fois.
Voilà.
Évidemment, il est quelque part.
Et je ne sais pas, j'ai cherché dans des annuaires modernes, mais bon, quelque chose qui m'évoque, je suis sûre que si j'avais des annuaires de 1947, c'était des médecins, enfin, où il y avait au moins un médecin dans le couple, je suis sûre que ça ferait tilt si je le revoyais. Et je me suis posé la question, est-ce que l'hypnose, dans certains cas, oui, ne peut pas permettre par une régression, de retrouver des noms? Je sais que ça arrive.
Alors bien sûr, l'hypnose peut fonctionner effectivement en régression, mais il y a un autre outil qui est extrêmement puissant, c'est les mouvements oculaires. La thérapie par mouvement oculaire qu'on appelle EMDR, ou qui porte aussi d'autres noms, ouais. Il y a le MO, enfin, toutes ces choses-là, parce que l'information est stockée quelque part. C'est une évidence. Vous le sentez, vous
c'est
le savez,
sûr.
Et elle est quelque
j'ai
part.
J'ai l'impression que j'ai le nom, mais je ne peux pas le lire.
Il sort
en
pas.
Fait, c'est ça.
Ouais. Donc, effectivement, il y a plusieurs chemins. L'hypnose en est un, la thérapie par mouvement oculaire en est un autre, qui me semble intéressant parce qu'elle va chercher dans les différentes zones de votre cerveau, là où sont stockées les informations. On peut
oui,
remonter
alors,
le fil de quelque chose ou détricoter quelque chose jusqu'à arriver à une source avec le MDR. Oui.
Alors, j'ai pratiqué le MDR, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que c'était aussi quelqu'un de
mais pour ça, pour retrouver ce souvenir-là?
Oui, j'avais essayé.
Oui.
Et puis, rien. Ça m'a rien...
Alors, effectivement, c'est compliqué de savoir si ce n'était pas la bonne personne.
Voilà.
Ou si ce n'est pas le bon outil pour vous, dans ces cas-là, bah pareil, il y a deux options. Soit vous réessayez avec quelqu'un d'autre, soit vous passez directement à l'hypnose. Est-ce que vous avez pensé aussi à la constellation familiale? Vous savez ce que c'est? Quand on rejoue des rôles?
Oui, oui.
Parce que ça peut
ça
faire...
Ça me fait très peur.
Ah, pourquoi?
Je ne sais pas. J'ai fait une analyse, enfin un travail en psychogénéalogie, mm-hmm, avec une psychothérapeute formé par Anne Ensslin-Schuttenberger.
Ah ben, parfait, oui.
Donc, un beau travail.
J'imagine, oui.
Ça a été terrible, parce que j'étais perdue.
Il y a beaucoup de choses lourdes dans cette famille.
Ah ben, c'est rien encore, ça. Ça, c'est un tout petit morceau. Voilà. Et je suis restée 3h30. Il a fallu qu'elle m'aide à construire l'arbre. Pourtant, je l'avais fait sur l'ordinateur. J'étais incapable de le refaire sur un paperboard. Impossible. Il a fallu qu'elle m'aide à démarrer. Je mélangeais les hommes, les femmes, les symboles. C'était une horreur, vraiment une horreur. Et je suis sortie. À la fin, la conclusion, elle m'a dit « Votre famille, c'est le talent, la haine et la maladie psychiatrique. » Voilà les trois mots. Je suis partie avec ça. Mmh. Et effectivement, je suis, par ma mère, issue d'une famille d'artistes, de gens très doués, mais complètement déjantés. Et j'ai d'ailleurs lu un livre magnifique qui s'appelle « Mots d'artiste, ce que cachent les œuvres ». Et bien là, on voit quand même qu'effectivement, il y avait certainement des problèmes psy graves chez moi. Et quand elle dit le talent, ben oui, c'était des gens doués en tout. Je vais dire à peu près en tout, en dessin, c'était impressionnant. Mais en même temps, des gens invivables, des caractériels, des gens même haineux, jaloux. Enfin bon, il y avait toutes les... Et j'ai fait après, je suis allée voir une psy pendant 18 mois, deux fois par semaine. Mmh. Elle a confirmé, hein, et elle m'a dit que je n'avais pas ma place dans la famille, effectivement, j'ai été rejetée parce que ma mère a eu une fille, elle avait choisi un prénom de garçon, et quand je suis née, c'était un drame pour elle.
D'où votre prénom mixte, vous pensez ?
Alors ça, c'est mon pseudo, parce que j'ai un prénom breton qui est tellement, je vous l'enverrai par mail, qui est tellement original qu'on ne peut pas me louper.
Ah oui, d'accord, si je vous reconnais tout de suite.
Ah, mais alors là, c'est quelque chose, ma mère l'a trouvé dans Tristan et Iseut. Alors, pour vous dire, elle est allée chercher loin. Et Tristan et Iseut, c'est un drame. Hein. Donc, elle m'a choisi un prénom très particulier. Et évidemment, si je donne mon prénom, là, c'est...
D'accord. Alors, dites-moi, avant de revenir à une technique qui vous permettrait d'aller plus loin dans cette recherche, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de récupérer ce nom ? Qu'est-ce que vous allez en faire après ?
Alors, j'ai besoin de savoir, parce que je suis dans ma famille, il y a eu des secrets, plusieurs secrets, et j'ai réussi à lever ces secrets à peu près. Bon, je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai trouvé. C'est très lourd, mais j'ai trouvé. Et ça, c'est vraiment la chose qui me travaille. Je voudrais simplement, j'ai fait les tests ADN, j'ai fait je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, je match avec rien, enfin, ou avec des très très lointains cousins. Et donc, je me suis dit, on ne sait jamais. Est-ce qu'elle-même, elle sait qu'elle a été adoptée ? Ce n'est pas sûr. Elle n'est peut-être plus en vie. Elle ne le sait peut-être pas. Donc, est-ce qu'elle ne recherche peut-être rien ? Mais peut-être qu'elle... je pense qu'un enfant adopté... Moi, j'ai adopté un enfant. Comme par hasard, je n'en ai pas eu.
Oui,
j'en ai adopté.
Forcément, oui.
Et j'ai choisi une profession où je me suis occupée d'enfants jusqu'au mois de... jusqu'au 1er, au 30 juin cette année.
Donc, vous avez besoin de remplir cette case absolument ?
C'est comme ce que j'entendais tout à l'heure, le travail comme une fuite. Ben, j'ai travaillé, oui, alors, par passion quand même. C'était passionnant, mais c'était aussi une fuite.
L'un n'empêche pas l'autre.
Oui, j'ai fait les deux. Et ce que j'aimerais, alors c'est un rêve, c'est pouvoir dire à cette sœur, parce que pour moi c'est une sœur, les demi-sœurs, non, ça me convient pas. Je voudrais lui dire, j'aurais aimé lui dire, je ne sais pas comment il faut le prononcer, que sa mère biologique ne voulait pas l'abandonner. Et que ça a été sur la pression de la famille.
Ah, vous avez envie d'aller réparer quelque chose, peut-être ?
Bon, bah, j'ai passé ma vie à réparer tout ce que j'ai pu.
Mais je suis en train de me dire, pourquoi est-ce que vous cherchez par ce nom-là et pas par la clinique où elle est née, par exemple ?
Mais je ne sais pas, elle est née à Angers, chez les Bonnes Sœurs, mais je ne sais pas où.
Ça, il y avait tellement... retrouve, ça, quand même, non ?
Non.
Je sais qu'il y a des organismes maintenant qui s'occupent de recherche de parents.
J'ai téléphoné à Angers, à la mairie, j'ai téléphoné au CNAOP, là, j'ai écrit.
Oui, c'est ça, je pensais à eux, justement, ouais.
Ah, mais j'ai fait tout ce qu'on peut, enfin, je crois, à peu près tout ce qu'on peut faire. J'ai mis un message sur Internet, dans une bouteille à la mer. J'ai essayé. Mais ce qui me manque, c'est ce nom. Je pense qu'avec ce nom, je pourrais au moins remonter l'histoire. Après, la retrouver, c'est peut-être autre chose. Mais c'est un rêve comme un autre. J'aurais voulu lui dire que... Et puis... gentiment lui dire aussi qu'on a tous payé pour cet abandon, parce que ma mère n'a jamais pu aimer ses enfants, ne s'en est pas occupée. Moi, elle m'a mise à l'orphelinat pendant un an. J'ai eu droit, j'ai fait mon CP dans un orphelinat. Elle ne me supportait pas. Elle me parlait toujours de mes yeux de folle. Elle me disait que j'étais maudite, que j'aurais des enfants tarés, qu'il faudrait que je m'en occupe. Et elle m'avait répété ce que ma grand-mère avait dit. « Qui te fait, te berce. » Et j'ai entendu ça toute ma vie. Et j'avais surtout cette phrase, mais ça, c'est depuis toute petite, bien avant que je sache quoi que ce soit, elle me disait « Tu vas payer, toi, tu vas payer, tu vas payer. »
Comme si c'était à vous de régler les comptes, de payer la facture.
Mais, quand mon père avait des problèmes, bon, je suis à 1200 km de chez eux. Hein. Quand mon père avait un problème, il m'appelait. Je prenais le train et j'allais les voir. Quand ma mère avait un problème, on m'appelait. Je montais, j'allais les voir. J'allais régler les problèmes. Mes frères avaient un problème, je montais, j'ai été utilisée. Et j'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Gobert qui a écrit « L'assujetti ou l'oubli de soi ». Et il m'avait fait j'ai fait un travail pendant quelques temps avec lui qui m'a énormément aidée. Et il a un questionnaire, il y a pas loin de 200 questions. Il m'a dit que j'étais une caricature d'assujetti.
Oui.
Et donc, mais ça m'a fait. J'avais lu son livre et il habite à 10 minutes en train de chez moi. Et donc, j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer. Il est extraordinaire. Il m'a fait un bien, mais. Et il m'avait posé la même question. Pourquoi vous voulez retrouver cette sœur? Je lui ai dit, j'aimerais lui dire qu'elle n'a pas été abandonnée parce que sa mère n'en voulait pas, mais parce que la grand-mère, et lui expliquait un petit peu le milieu.
Mais peut-être qu'elle le sait par ses parents adoptifs.
Ah, je ne sais pas. Je pense que ça faisait partie de ces milieux un peu fermés. Je ne crois pas.
Non.
Non. Je penserais même plutôt qu'on ne lui a rien dit. Et je suis quasiment persuadée qu'on ne lui a rien dit.
Il y a Mamie Tam Tam, qui est décidément ce pseudo que j'aime beaucoup, qui nous dit « Bonsoir, il me semble que la BNF conserve les exemplaires d'anciens annuaires téléphoniques. »
Oui.
Mais c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein.
En cherchant peut-être par profession, je sais que c'est fermé en ce moment parce que je me suis renseignée.
Oui.
Mais avec le Covid, avec les TGV qui arrêtent la climatisation, je suis à 600 km.
Il y a Michel aussi au masculin qui laisse son téléphone et qui dit « Bonsoir, j'aurais quelques idées à soumettre à Dominique, pourriez-vous lui transmettre mon numéro ?» Donc si vous le permettez, on vous mettra en contact hors antenne.
Ah, mais avec plaisir, merci beaucoup. Alors,
pardon, Maxime me dit que j'ai dit une bêtise. Non, j'ai bien dit Michel, non ?
C'est pas une bêtise. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance.
Bon, en tout cas, peut-être il y aura des pistes de ce côté-là. Mais sinon, effectivement, juste pour comprendre quelque chose, quand vous avez fait le MDR, est-ce que vous vous souvenez des mouvements ? Est-ce que c'était uniquement des mouvements horizontaux devant les yeux ? Ou est-ce que vous êtes allé chercher dans des segments plus hauts ?
Il projetait une lumière sur le mur.
Oui.
Et il fallait que je suive les points lumineux.
Oui.
Et c'est tout. Et je ne sais pas. J'ai trouvé que... Alors, c'est peut-être un mot qui n'est pas gentil pour les gens qui pratiquent, mais en tous les cas, avec lui... C'était quelqu'un de charmant, c'est pas ça qui est en cause, mais c'était un peu inconsistant. C'est,
ça n'allait pas assez loin pour vous.
Voilà, vous suivez, vous regardez, et puis voilà, vous vous sentez comment.
Michel, on marque une courte pause si vous permettez, et on en reparle tout de suite.
Merci.
Merci à vous, à tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Michel, mea culpa, je viens de comprendre, Maxime a expliqué l'erreur que j'ai faite. Le message de Michel au masculin n'était pas pour vous, mais pour Dominique qui est passé juste avant vous.
Ah ben
pardon, j'ai fait un mix. Ce qui ne veut pas dire
qu'il
n'y aura pas d'autres personnes qui pourraient éventuellement avoir des idées et vous appeler, mais en l'occurrence, ce Michel-là souhaite être en contact avec Dominique et pas avec vous. C'est là où j'ai fait un mix des prénoms, pardonnez-moi. On en revient à ces mouvements oculaires. Oui, je comprends tout à fait. Il me semble qu'effectivement, quand on le fait avec une lumière, on est moins proche aussi du patient. On est moins dans l'échange et il n'y a eu aucune suggestion pendant ces mouvements. C'est bien ça, hein ? Juste vous laisser fixer.
Non, rien.
Ouais.
Il m'avait demandé de penser, de choisir une pensée et puis de suivre les points lumineux, c'est tout.
Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui pratiquait l'hypnose en même temps ?
Alors, il a pratiqué l'hypnose, oui, il est. Bon, il m'a dit qu'il était hypnothérapeute. Le problème, c'est peut-être le mot est exagéré, mais j'ai connu l'hypnose, enfin, j'ai connu. Mon fils adoptif a eu un problème de genou, il se paralysait. Les chirurgiens m'avaient dit, c'est psychologique. Alors, quand deux chirurgiens spécialistes du genou vous disent que c'est psychologique, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ne savaient pas. Et j'ai pensé à l'hypnose et j'ai moi-même fait un début de formation en hypnose, mais j'avais fait une abréaction tellement horrible que j'ai arrêté.
Eh oui, parce que
Et
c'est sur un terrain bouillant, là, donc forcément. Quand on commence à apprendre, on travaille sur soi d'abord et ça fait remonter plein de choses.
oui, ben ça a été horrible.
Oui.
Ça a été quelque chose de terrible. J'ai même inquiété le médecin qui faisait la formation. Et j'ai eu une prise de conscience de quelque chose de vraiment d'horrible. Et quand mon fils a eu ses problèmes, j'ai pensé à l'hypnose. Et il a eu la chance d'être soigné par François Roustan.
Ah ben, un des maîtres, évidemment, dans ce domaine.
J'ai assisté à la première séance. C'est quelque chose de, il faut l'avoir vécu pour le croire.
Oui.
Parce qu'il se paralysait et les chirurgiens m'avaient dit, il ne peut plus, il va perdre l'usage de sa jambe. Il avait déjà un rétrécissement de la jambe droite et c'était vraiment, on ne savait pas quoi faire. Et en trois séances, ça a été réglé.
Oui, quand on sait servir de l'outil, c'est ça le résultat.
Ah, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose c'est fabuleux. C'est vraiment ce que j'ai vécu là. Alors, c'est sûr que quand on a connu ça, c'est difficile après parce que le problème de l'hypnose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations rapides,
Oui.
qui se forment en quelques semaines, en quelques.
Tout à fait.
Et j'en ai beaucoup autour de chez moi, là,
Et
dans le sud.
qui s'improvise apprenti sorcier derrière.
Oui, mais c'est très grave parce que je dirais ce qu'a dit le. Ah, c'était le docteur, je peux dire qui c'est, le formateur, c'était le docteur Simon à Lille, où j'ai fait ma formation. Il disait, vous avez un explosif dans les mains. Et c'est vrai, l'hypnose, ça peut aller extrêmement loin. Et quand quelqu'un qui se prétend hypnothérapeute vous dit j'ai guéri un cancer, j'ai vu
Ouf,
le
oui.
démon sortir du corps
Oui, là, vous partez en courant dans l'autre sens.
se dire que ces gens-là prétendent soigner, mais ça peut complètement détraquer quelqu'un. Ça peut. Alors par contre, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec, enfin ce que j'ai vu avec le docteur Simon, je l'ai vu pratiquer, c'est magnifique aussi. C'est très très beau. Vraiment, c'est la belle hypnose. Moi,
Et pourquoi vous ne
je trouve qu'il y a
retournez pas
quelque
le
chose.
voir, lui, ou quelqu'un qui pourrait être dans la même lignée?
Bah, il est à Lille
Ah
et
oui,
je crois
mais.
qu'il est en retraite. Et moi, je suis à l'autre bout de la France. Et en ce moment, pour se déplacer,
Ou lui demander conseil sur
je pense, mais il
quelqu'un.
y a des gens qui sont sûrement très, il y a des gens très doués, hein. Je sais pas. Bon, bah, Roustan, c'était
Mais
particulier.
il y a
Je me
aussi
suis
beaucoup de
dit.
gens qui ont été formés par Roustan et qui sont très très bons.
Oui,
Eh oui.
je sais qu'il y en a un qui a écrit un livre avec lui que j'ai lu. Et
Moi, j'ai été
mais
formée
il est.
par un des apôtres de Roustan, donc je sais de quoi je parle. Il y a vraiment des gens formidables
Ah, bah
qui ont été
alors.
nourris avec lui et qui transmettent ça aujourd'hui maintenant aux autres, soit dans leur cabinet, soit pour former des futurs thérapeutes.
Oui, mais le problème, c'est il faut les connaître. J'en connais au moins un, qui a été formé par François Roustan, qui est devenu un ami d'ailleurs, qui a écrit un très beau livre sur l'hypnose. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose de. Avec ce que j'ai vécu, je me dis qu'il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas. Ça peut être dangereux aussi de se rater, hein.
Ah, si
Je
vous faites
sais
remonter
que.
des choses et que le thérapeute ne sait pas quoi en faire derrière, oui, bien sûr, c'est dangereux. Évidemment.
Alors moi, c'était dans le cadre de la formation.
Mais
Donc
c'est souvent le
c'était.
cas dans des formations. Le problème, c'est que vous êtes à tour à tour cobaye et thérapeute.
C'est ça.
Et
C'est ça.
vous êtes cobaye pour des gens qui ne savent pas faire. Parce qu'ils sont, débutants et on se retrouve dans des situations qui sont souvent extrêmement dangereuses et fragilisantes. Et ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Quand il n'y a pas un superviseur correct qui peut rattraper le coup tout de suite, ça, effectivement, ça peut être très, très embêtant.
Oh bah, il l'a rattrapé, mais ça m'a marqué. Je serais prête à recommencer, mais je veux... Voilà, il faut quelqu'un de solide et de... qui connaissent vraiment son métier.
Mais là, bon, après, en vous écoutant, je pense que vous pouvez trouver des pistes là, avec les gens que vous avez rencontrés. Vous recontactez les secrétariats qui peuvent vous orienter.
Je vais essayer, mais j'attends que ce Covid passe là, parce que...
Oui, ça, vous n'êtes pas la seule. Dans pas mal de domaines, on attend que ça se termine tout ça.
Ah oui, non, mais... je vais essayer, j'y ai pensé, mais...
Alors, pour en revenir à cette sœur, vous avez imaginé éventuellement, si jamais elle était encore là et les retrouvailles, comment ça se passerait ?
Ah ben c'est compliqué, parce qu'il faudrait que je... D'abord, j'essaierais discrètement de savoir qui elle est, ce qu'elle fait. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de savoir, que ça n'intéresse pas. Mais enfin, j'essaierais de me faire accompagner quand même, de ne pas le faire toute seule.
Vous avez, j'y pense, bêtement essayé sur les réseaux sociaux ?
J'ai fait,
ouais.
Mais je me dis, elle est peut-être plus de ce monde.
Oui, mais il y a peut-être des gens qui l'ont connue.
Oui, mais qui savait qu'elle était adoptée ?
Oui, il y a beaucoup de points d'interrogation.
Voilà, c'était des gens qui habitaient Nantes, je pense Nantes ou Rennes, et... sont venus la chercher à Angers, bon, je sais pas, on a pu croire que c'était leur enfant.
Voilà, exactement, il y a quelqu'un qui nous envoie un petit message en disant, à cette époque, il est possible que les parents adoptifs aient fait croire que c'était leur propre enfant. Comme il y a eu le premier jour, effectivement.
Et oui. Alors après, il y a les baptêmes, il y a des fois, on baptise l'enfant avant de partir, de rentrer, mais il faudrait savoir où, il faudrait retrouver l'institution où ma mère a accouché, mais...
Ce qui serait intéressant, c'est que peut-être ce soir, parmi les gens qui nous écoutent, quelqu'un ait l'ombre d'un début d'une piste, qui sait ? Quelqu'un du coin qui aurait entendu, su, vu quelque chose à l'époque ? Pourquoi pas ?
Ah, on ne sait pas.
Quelquefois, il suffit d'un fil et on tire dessus et il y a plein de choses qui tombent derrière.
Oui, mais ça m'arrive souvent d'avoir des choses comme ça étonnantes. Enfin...
La fameuse synchronicité ?
Ah ben les synchronicités, là, j'en ai un paquet. Alors je me dis peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut écouter, c'est peut-être... je vous ai dit, je ne crois pas au miracle, mais quand même, quelquefois...
Mais ils seraient les bienvenus éventuellement quand même.
Ça m'arrangerait qu'il y en ait un, oui, celui-là m'arrangerait. Parce que c'est vraiment c'est un manque, c'est un vide. Il y a un vide. Et je l'ai comblé en m'occupant d'enfants. Ça, c'est certain que j'en ai fait mon métier. Et ça m'a aidé. Ça m'a fait tenir. Ça. Mais bon, maintenant, j'ai terminé de travailler. Et immédiatement, j'y repense. Et ça revient.
Ah bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La fuite dans l'occupation, c'est très bien, mais ça n'a pas résolu le problème de fond.
Ah non, ça n'a rien résolu.
Oui, bien sûr.
Le problème revient. Je l'ai refoulé pendant quelques temps, quoique. Quand j'avais un enfant qui s'appelait Véronique, c'est arrivé deux, trois fois. L'imagination repartait et je faisais des cauchemars.
Oui, il y a vraiment quelque chose à remplir, là. Il y a un vide à remplir. Donc si on récapitule, Michel, trouver un bon hypnothérapeute dans la lignée de ceux que vous avez connus, quelqu'un qui fasse pourquoi pas de l'EMDR, mais de manière peut-être plus intense, on va dire, avec vous.
J'ai l'impression que c'était un jeu vidéo, voilà.
Oui, c'était pas ce qu'il vous fallait en tout cas. Et puis, ne raccrochez pas, il y a un SMS qui vient d'arriver qui n'est pas signé de quelqu'un qui aimerait vous parler. Cette fois, c'est vraiment vous, je me trompe pas de personne.
Ah bon ?
C'est vraiment pour vous le message. Et puis, si vous le permettez, comme d'habitude, on gardera votre mail parce qu'il est fort possible que des gens qui écoutent l'émission dans les jours qui viennent aussi cherchent à entrer en contact avec vous. Ce serait bête quand même de vous rater.
Avec plaisir, c'est très gentil, merci.
Donc je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter bonne chance et surtout,
moi
bien
aussi.
Sûr, s'il y a quoi que ce soit qui bouge, s'il y a du nouveau, vous me rappelez pour me raconter la suite.
Ah bah bien sûr, je ne vous oublierai pas.
Bon, ne raccrochez pas Michel, je vous repasse le standard et ils vont voir avec vous pour vous mettre en relation avec ceux qu'ils souhaitent.
Merci beaucoup.
Merci à vous Michel.
Au revoir.